Et donc, il va falloir beaucoup d'entraînement pour arriver à ça.
Oui, tout à fait.
Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
C'est une bonne idée, c'est une suggestion, oui.
Mais je trouve que ça pourrait être très marrant, une flash de neige qui fait un sketch en wallon, oui.
Une bonne idée, ça, oui. À voir pour la prochaine fois.
Merci aux Boursignols pour leur témoignage, leur accueil, leur gentillesse et leur bienveillance.
Quel est le mot qui convient pour cette parole mondiale, pour cette parole cosmique? Eh bien, c'est la logosphère. Vous êtes ici des citoyens de la logosphère.
D4P.
De Kenneth Cook, le koala tueur et autres histoires du bush. Six taïpans. J'ai l'habitude de sillonner la campagne à la recherche d'anecdotes que j'incorpore ensuite dans des récits ou que j'utilise comme thème romanesque. Les situations observées doivent presque toujours être radicalement modifiées pour la simple et bonne raison qu'elles sont invraisemblables. Cependant, on peut parfois rencontrer une situation vraie qui n'ait besoin d'aucune modification. Sa valeur réside dans son extravagance même, mais elle est si extravagante que l'on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que quelqu'un y croit. L'histoire des six taïpans appartient à cette catégorie, et pour garantir sa véracité, je ne peux que me placer sur la défensive et affirmer que j'ai des témoins et que je suis prêt à les faire comparaître. Je me promenais à proximité de l'Alligator River qui borde la terre d'Arnhem. J'effectuais des recherches sur les animaux domestiques revenus à l'état sauvage, lorsque je me perdis à la tombée de la nuit, ce qui m'arrive fréquemment. Apercevant un feu de camp, je m'en approchais pour demander mon chemin et j'y rencontrai un naturaliste allemand qui étudiait les reptiles de la région. C'était un gros bonhomme d'âge moyen, d'un physique assez semblable au mien, et qui s'exprimait dans un anglais excellent, bien qu'assez scolaire. Il s'appelait Hans, et il travaillait pour un zoo ou un musée quelconque en Allemagne. Je passai la nuit à son campement, et il m'exposa son projet de ramener quelques taïpans chez lui. Pour une raison obscure, cette espèce de serpent est très précieuse aux yeux des Allemands qui aiment l'exposer dans leur zoo. En Allemagne, un taïpan en vie peut vous rapporter 1 ou 2 milliers de dollars, m'apprit-il, mais leur trafic est illégal, puisque c'est une espèce protégée. Ce qui n'empêche pas les trafiquants peu scrupuleux d'essayer de les exporter. J'ai une fois rencontré un homme qui avait tenté de rejoindre l'Allemagne avec, à bord de son voilier, un chargement de 100 taïpans. Il avait l'intention de s'enrichir, mais personnellement, j'estimais qu'il courait le risque d'inonder le marché. Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé, mais la pensée seule me fait trembler. Les ambitions de Hans étaient moins extravagantes, mais il n'en voulait pas moins 2 taïpans. Il avait essayé d'obtenir un permis par toutes les voies officielles, mais en vain. Il est évident que si son zoo avait écrit à un zoo australien et était passé par les filières conventionnelles, ils auraient pu s'entendre, mais ils n'avaient pas le temps d'attendre. Hans rêvait d'un retour glorieux avec les taïpans, qui auraient par ailleurs donné un coup de fouet à sa carrière. Sachez qu'il est facile de se procurer un taïpan en Australie. Il vous suffit d'entrer dans un pub d'une région à taïpans et de faire savoir que vous êtes prêt à payer, disons, 100 dollars pour en obtenir un. À peine rentré à votre hôtel, plusieurs types viendront frapper à la porte de votre chambre en vous disant « Psst, c'est toi qui veux acheter un taïpan, mon pote ?» Je mentionnais cela à Hans juste en passant, et il sembla très intrigué. La conversation dériva ensuite sur des sujets d'ordre plus général et nous nous aperçûmes que nous devions prendre le même avion de Darwin à Bali quelques semaines plus tard. Pour marquer cette étrange coïncidence, nous décidâmes même de nous retrouver dans un hôtel de Darwin la veille du départ. Et sur ce, le lendemain, chacun partit de son côté. Je me perdis à nouveau, naturellement, mais seulement provisoirement. et comme prévu, je me retrouvais à Darwin la veille de la date fixée pour mon vol à destination de Denpasar. Je me souvins de Hans et passai à son hôtel dans la soirée. Il m'accueillit avec l'enthousiasme que les gens manifestent quand ils retrouvent un compagnon de fortune rencontré en pleine nature, m'offrit un scotch et me pria de l'excuser car il avait quelques affaires à régler à la réception. J'ai la fâcheuse habitude d'aimer mon whisky avec beaucoup de glaçons et profiter de l'absence de Hans pour me servir dans son frigo. J'ouvris la porte et, grand Dieu, 6 taïpans engourdis me dévisagèrent en se levant lentement les uns contre les autres. Je doute fort que dans toute l'histoire de l'humanité, on ait refermé une porte de frigo plus rapidement. Mon choc était tel que je descendis mon whisky sans glace. Puis Hans revint. « Savez-vous que votre frigo est plein de serpents mortels ?» lui demandai-je. Le pauvre homme se raidit, figé sur place. Il pâlissait à vue d'œil. Je crus tout d'abord qu'il découvrait un complot minutieux visant à l'éliminer. Mais je compris vite que son effroi était de nature différente. Bah, « Comment vous en êtes-vous aperçu ?» me dit-il d'un ton affligé. « Vous voulez dire que vous êtes au courant ?»« Bien sûr que je suis au courant, c'est moi qui les y ai mis. Vous croyez peut-être qu'ils y sont allés tout seuls ?» Je n'avais pas de réponse à cette question. Je me contentais donc de rester assis et de le dévisager. Il traversa la chambre, se pencha et me scruta du regard. « Je dois vous confier un secret, » souffla-t-il d'une voix rauque. « Vous devez me jurer de ne parler de ces serpents à personne. » Ma foi, si un homme choisit de garder des serpents venimeux dans son frigo, il me semble que ça le regarde, et je m'empressai donc de donner ma parole. Il me raconta alors comment il les avait achetés et m'expliqua qu'il allait les congeler pour pouvoir les faire sortir en fraude du pays. En diminuant suffisamment la température d'un corps de serpent et en la maintenant basse, l'animal entre apparemment dans un coma dont on peut le sortir en le réchauffant. Rien de tout ça ne m'inquiétait particulièrement. Si ce teuton timbré voulait expédier une caisse entière de serpents givrés à l'étranger, je m'opposais au principe en tant que défenseur d'une espèce protégée. Mais d'un autre côté, je n'étais fan ni des taïpans ni d'une autre poignée de spécimens de la faune australienne. Je crus toutefois bon de prévenir le type que ses bagages seraient certainement inspectés à l'aéroport et que les douaniers verraient d'un mauvais œil ces 6 taïpans gelés. « Mais je le sais, me répondit l'Allemand, vous me prenez pour un idiot ?» C'était exact, mais je choisis de me taire. Ce qu'il dit alors me fit instantanément vieillir de 10 ans. « Je vais les transporter dans la jambe de mon pantalon, » annonça-t-il avec une lueur de triomphe démoniaque dans les yeux. « Hein ? » lançai-je, ce qui attestait d'une certaine éloquence, vu les circonstances. « Dans la jambe de mon pantalon, vous comprenez, pantalon ?» Il tapota son pantalon. « Oui, oui, » répondis-je, « je comprends, pantalon. Est-ce que vous comprenez que les taïpans ont un venin mortel ? Bien sûr, mais quand ils sont gelés, ils sont incapables de mordre. Tenez, je vais vous montrer. » Et le bougre se dirigea vers le réfrigérateur, en ouvrit grand la porte, plongea la main à l'intérieur et en ressortit un serpent. L'animal engourdi tenta vaguement de le mordre et après un « ach » ou « Donnerblitzen » ou autre, il le rejeta et en prit un autre qui avait succombé au froid. Puis il défit le haut de son pantalon et glissa la créature tête première le long de sa jambe. Comme il était un peu trop long, il entortilla la queue et la coinça contre son ventre. Il baissa sa chemise et me jeta le regard victorieux d'un gamin qui vient juste de réussir un tour de cartes. « Vous voyez, personne ne peut savoir qu'il est là. » C'était exact. Son pantalon bouffant masquait toute trace de présence du reptile. « Mais 6 d'entre eux » soufflai-je. « Facile. 3 dans chaque jambe. Vous voulez que je vous montre ?»« Oh non, non » hurlai-je. « Remettez cette saleté dans le frigo et profitez-en pour me sortir les glaçons. » Il enleva le serpent de son pantalon, le replaça tranquillement avec les autres et eut la gentillesse de repousser un des reptiles qui sifflait pour attraper mes glaçons. « Écoutez-moi bien, mon ami, lui dis-je avec autorité, dès que j'eus repris du whisky pour faire flotter mes glaçons. Si un seul de ces foutus serpents se réveille dans l'avion, vous êtes un homme mort. Mais ils ne se réveilleront pas, avança-t-il d'un ton assuré. Je descendrai à Dampazard et je les enverrai en Allemagne dans une caisse ordinaire. Ils n'ont pas toutes ces restrictions douanières ridicules en Indonésie. » Le vol de Darwin à Dampazard ne prend pas très longtemps et ils vont dormir 3 heures, et peut-être même 4. Vous pouvez imaginer ce que je ressentais à l'idée de monter dans le même avion qu'un homme avec 6 taipans dans le pantalon, mais j'étais piégée. J'avais promis de ne mentionner à personne la présence des serpents, et je ne m'engage jamais à la légère. Par ailleurs, cet énergumène était un scientifique, et il savait probablement ce qu'il faisait. Je priais intérieurement pour qu'un douanier inspiré entreprenne une fouille corporelle, même si la découverte de 6 taipans à cet endroit risquait fort de lui être fatale. Je me contentais donc de descendre beaucoup plus du whisky de l'Allemand et aller me coucher. Naturellement, je ne quittais pas Hans des yeux quand j'embarquais le lendemain. Et je le vis passer le comptoir des douanes et la sécurité sans encombre, un sourire teutonique fixé au visage, mais rien d'autre ne le distinguait des autres passagers, si ce n'est qu'à mon œil averti, il semblait avancer avec une certaine raideur. Tout le monde devait évidemment attribuer ça à une vieille blessure de guerre. Il portait le type de pantalon allemand resserré et enfoncé dans les chaussettes pour que rien ne puisse tomber. J'imagine qu'il tenait les reptiles par la queue, enfoncés dans l'élastique de son slip, tendu par sa considérable panse. Vous devinez la suite. Je me retrouvais assis à côté du type. L'avion était plein, impossible de changer de place. Comme je l'ai dit, c'était un costaud. Je suis moi-même assez bien enveloppée et nos jambes se retrouvèrent collées l'une à l'autre. Je jure que j'ai perdu plus de 6 kilos en quelques minutes, redoutant à tout instant de voir surgir 3 paires de crochets mortels qui déchireraient la jambe de son pantalon, la mienne, et plongerait dans ma tendre et précieuse chair. Il ne m'adressa pas la parole. Il semblait légèrement gêné d'être assis à côté de moi, ce qui était bien compréhensible, et je passais la première moitié du trajet dans un état de terreur absolue, essayant de me recroqueviller loin de lui, quasi incapable de quitter des yeux ses jambes boursouflées qui, à mes yeux affolés, semblaient grouiller et se tortiller en permanence. L'Allemand poussa soudain un grognement de douleur et se plia en deux en se tenant le ventre. « Oh mon Dieu !» pensai-je. Il était temps de revenir sur ma parole. Je me mis à gesticuler pour appeler l'hôtesse de l'air tout en me demandant, même dans le feu de l'action, comment j'allais pouvoir lui expliquer que mon compagnon avait été mordu par un taipan à l'intérieur de son pantalon. Mais l'Allemand me retint le bras. « Non, dit-il, ce n'est rien, un simple problème digestif. » Il faut que j'aille aux toilettes. Il se leva, se pressa contre moi et descendit tout l'appareil pour aller au WC. Je l'observais, totalement horrifié, mais j'étais incapable d'imaginer comment il allait se débrouiller pour utiliser les toilettes avec ses 6 serpents. Il resta enfermé une bonne 10 minutes et il en ressortit l'air très mal en point. Son visage était pâle, il titubait légèrement. Il parcourut la moitié du chemin et s'effondra soudain à plat ventre dans l'allée. 2 hôtesses se précipitèrent à sa rescousse et comme de bien entendu, je bondis vers elle en hurlant « Non, non, ne le touchez pas, cet homme est plein de taipans !» Les hôtesses ne manquèrent pas de trouver cette déclaration incompréhensible, mais j'étais déjà penchée sur l'Allemand déchu, attendant de voir les taipans surgir de son pantalon, repoussant tout le monde à renfort de gestes et criant « Je vous dis qu'il a des taipans dans son pantalon, écoutez-moi, des taipans dans son pantalon !» Puis l'Allemand s'assit et me lança un regard plein de reproches. « Vous m'aviez promis. » « Je sais bien, mais merde enfin, il arrive un moment où, écoutez, vous vous êtes fait mordre, ces saletés se sont réveillées, elles vont grouiller dans tout l'avion en un rien de temps. » « N'importe quoi, répondit l'Allemand. J'ai la diarrhée, voilà tout. » Les hôtesses avaient entre-temps alerté le capitaine, copilote ou Dieu sait qui, et plutôt raisonnablement, il exigeait de savoir ce qu'était que tout ce bazar. Prenant un air des plus posés, je lui expliquais que cet homme avait 6 taïpans dans le pantalon et que j'avais toute raison de croire qu'il avait été mordu. Plusieurs rangées de passagers m'entendirent et firent soudain preuve d'un intérêt considérable et d'une certaine agitation. « Est-ce vrai ?» demanda le pilote à l'amant. Hans se releva, me jeta un regard plein de mépris, défit sa ceinture d'un coup, laissa son pantalon tomber autour de ses chevilles et il n'y avait aucune trace de serpent, seulement un caleçon long et grisâtre. Je suis rarement décontenancée, mais tandis que je bafouillais des histoires de taïpan, que les hôtesses observaient un Allemand furieux, le pantalon baissé sous les yeux de l'ensemble des passagers qui se pressaient maintenant dans les allées, j'étais très décontenancée. J'observais le caleçon moulant d'Hans, il était impossible d'y dissimuler des serpents. Je compris soudain. « Il les a cachés dans les toilettes !» criai-je. « Voilà ce qui s'est passé. Il les a libérés dans les toilettes. Mais bon sang, allez-y, vous verrez bien !» Le pilote avait beau être persuadé de ma folie, il faut être courageux pour ouvrir la porte de toilette qui, d'après la rumeur, sont infestées de taïpans. Mais il l'ouvrit. Derrière lui, l'Allemand et moi-même maintenions une distance de sécurité raisonnable. Il n'y avait pas la moindre trace de taïpans dans les WC. Le pilote me lança un regard accusateur. Hans me dévisagea avec mépris et les hôtesses avec grand effroi. Il a peut-être tiré la chasse, annonçai-je sans grande conviction. Le pilote examina les toilettes, ce n'était pas le genre de WC où l'on pouvait faire disparaître des serpents. Il hocha la tête, ferma la porte. « Allons, allons, c'est fini, tout le monde se calme et reprend sa place », dit-il d'un ton apaisant. Je n'étais que trop content d'obéir et Hans, qui avait remonté son pantalon, revint prendre son siège à côté de moi sans m'adresser la parole. « Qu'est-ce que vous en avez fait ? » sifflai-je. « Je ne ferai plus jamais confiance à un Australien, me dit-il, avec une sombre dignité teutonique. Si ça vous chante, qu'est-ce que vous avez fait des serpents ? Ça ne vous regarde absolument pas ? Mais il s'avère que j'ai sous-estimé le degré de température du frigo et qu'ils sont tous morts de froid. Il était donc inutile de les amener. » Puis il se tourna avec rigidité vers le hublot et s'enferma dans un silence offensé. Je m'effondrai dans mon siège et fis signe à l'hôtesse. Je ne voulais qu'un whisky, mais elle ne pouvait pas le savoir et garda soigneusement ses distances. L'Allemand ne prononça que 5 mots de plus pendant tout le voyage. « Vous êtes un véritable mufle », me jeta-t-il en arrivant à Dampazar.
Dix jours et 9 nuits de voyage, le plein d'amour dans les bagages. Je nous revois, Constant, partir sur ton cheval. Je nous revois, Constant. Il y avait toi au fond des plaines. Il y a la traîne. Je nous revois clopin, clopin dans la poussière. Je nous revois clopin. On a dormi les yeux mi-clos. Un ciel étoilé sur la peau. L'éternité constante sur ton cheval, on y croyait pourtant. Les 10 jours et 9 nuits de noces d'un sale type avec une sale gosse. Nos vanités constantes emmenées par ton cheval. Thank you. désert. Je me revois pleurer des larmes de colère. Je me revois pleurer. J'ai cru t'oublier un peu tôt dans le bras d'un bandit manchot. Mais tu reviens constant, toujours sur ton cheval. Galopin, galopin.
Anonyme, devant le cas, sur mon 31, je composte mon ticket, train-train quotidien. Une moustache postiche, lunettes de soleil, de temps en temps la barbiche ou les grandes oreilles. Petit-fils de Fantomas et d'Arsène Lupin, je voyage en première classe parmi les rupins. Bourgeois se réveille, il est en chaussettes. Je profite de son sommeil pour faire mes emplettes. Chevalière, montre suisse, cravate et chapeau. Ne laisser aucun indice, je prends le manteau. Petit-fils de Fantomas et d'Arsène Lupin, je voyage en première classe parmi les rupins. Planqué sous ma perruque, petit revolver, un coup de crosse sur la nuque, si ça dégénère. C'est une belle mécanique, tout est bien réglé. Si la victime panique, je peux l'étrangler. Ce matin, je courtisais une demoiselle, il faut dire qu'elle portait un collier de perles. Pourtant, je connais par cœur ce genre de technique. Le bijou était un leurre, c'était une flic. Sur son cou, j'ai la main mise et je suis aux anges. Quand l'odeur de sa chemise soudain me dérange, sursaut de lucidité, ça sent la volaille. Je dégaine mon pistolet. Et là, ça me mitraille. Dès le lendemain matin, à la une des quotidiens, mon portrait robot. Je suis toujours en cavale, j'ai changé de tête. Une embrouille à l'hôpital, et l'affaire est faite. Comment j'ai fui le wagon, ça c'est un secret. Jetez-moi donc en prison, je vous montrerai. Et quand vous prendrez première classe. Priez pour Arsène Lupin.
Les rêves ont été créés pour qu'on ne s'ennuie pas pendant le sommeil. Pierre Dac.
D4B. Told you we were fools playing all the time in this room with the death shadows in our mind, with the death shadows fly around. People talked about us, they were saying that we lived in sin, trying to hide our own bodies under our own fake skins. But I told you we were fools playing all the day in this room. The death shadows on the knife, stop the hunt, stop the sacrifice. For sure we were fools to complain about life. Poetry is on vessels like an exorcism exercise. Thank you.
J'avais jamais remarqué que vous aviez les yeux bleus, maître d'armes.
C'est sûrement parce qu'ils sont marrons.
Le pire, dire que nous avons tout fait pour nous retrouver et que le ciel va se dérober sous nos pieds. L'envol est impossible. Si je convole, c'est en fascinance. L'envol est à proscrire.
Il a froid, elle sent lorsqu'il est triste, elle sait quand il a faim. Elle sent lorsqu'il a mal, elle sent lorsqu'il a peur, elle sent lorsqu'il va bien. Elle n'en fait jamais trop, elle connaît ses tourments, elle sait ce qui l'attend. Elle aime tous ses défauts, elle fait tout parfaitement, elle connaît ses enfants. Elle l'a porté si longtemps, il est la chair de sa chair, son paradis, son enfer, son alibi, son passe-temps. Elle sait ce qu'il lui faut, bien mieux que personne. Lorsque sa voix résonne, elle se réveille en sursaut. Mets-toi doucement, mets-toi doucement, mais sûrement. Mets-toi doucement, ton instinct maternel au creux de ton fondement. Son intérieur, ordonnée, minutieuse, elle est le calme en personne. Elle range, elle repasse, récure et nettoie, elle sait faire la tarte aux pommes. Elle ramasse ce qui traîne dans la cendre et le vent, et jamais ne vous ment. Elle a ça dans ses gènes, elle a ça dans le sang, et ce depuis la nuit des temps. Une légende, un roman, une pure invention, une immense illusion basée sur du néant. Un projet régressif qui perdure et perdure, de mensonges en blessure, un piège à con collectif. Mets-toi doucement, mais sûrement.
mets-toi, mets-toi doucement. Ton instinct maternel au creux de ton fondement. Mets-toi, mets-toi doucement. Mets-toi doucement, mais sûrement. Mets-toi, mets-toi doucement. Ton instinct maternel au creux de ton fondement. Comme elle est douce, c'est fou ce qu'elle est patiente. Elle s'efface, elle se donne. Elle est là pour vous servir, faire votre bonheur. Trop bonne et trop conne. Elle s'affaire, elle s'affaisse, ses genoux dans les choux, mamelle autour du cou. Et si parfois tu la blesses, elle tendra l'autre joue, elle sera toujours là pour vous. Son amour est naturel, naturel et instinctif. Rien n'est jamais poussif, même de faire la vaisselle. Quand le rôti est trop cuit ou la table n'est pas prête, alors on lui fait sa fête et ainsi va la vie. Mets-toi, mets-toi doucement. Mets-toi doucement, mais sûrement. Mets-toi, mets-toi doucement. Ton instinct maternel au creux de ton fondement. Mets-toi, mets-toi doucement. De ton fondement. Mets-toi, mets-toi doucement, mais sûrement. Mets-toi, mets-toi doucement, ton instinct maternel au creux de ton fondement. Mets-toi, mets-toi doucement. Mets-toi, mets-toi doucement.
Tu me lances des mots étranges, avant que ne se libère le souvenir de toi qui s'enfuit déjà. Enveloppez-moi dans des draps de satin blanc, de brume pour vous étioler, de musiques acides et syncopées.
Thank you. I miss you.